Laudetur Jesus Christus.
Pression maximale sur la Russie pour accepter l'accord de trêve américain négocié hier avec l'Ukraine en Arabie Saoudite. Volodymyr Zelensky affirme que la décision est à 100% dans les mains de Moscou. Donald Trump espère lui une réponse positive. Mais les Russes préfèrent pour l'instant temporiser. Nous retrouverons notre correspondant à Moscou au début de ce journal. Un mandat d'arrêt émis ce matin contre le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik. Un nouveau chapitre des tensions qui traversent le pays des Balkans. À la une de ce journal également. Également la guerre au Soudan, loin des écrans. Il y a pourtant urgence. Cette guerre civile et la catastrophe humanitaire qui en découle est une faillite de la communauté internationale, regrette Médecins sans frontières. Et puis nous irons également à Kinshasa, où le gouvernement congolais semble prêt à des négociations directes avec les rebelles du M23, et ce grâce à une médiation de l'Angola.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Avant de développer tous ces titres, les nouvelles comme chaque soir du pape François. Le Saint-Père a passé une nouvelle nuit tranquille, a précisé ce matin la salle de presse du Saint-Siège. Et comme les jours précédents, le pape a pu suivre les exercices spirituels de la curie en liaison vidéo. Il a également poursuivi ses thérapies et son oxygénation à haut débit durant la journée. Un nouveau bulletin médical est attendu dans la soirée. Un chapelet est en train d'être récité depuis la salle Paul VI pour son rétablissement comme chaque soir. Les dernières informations mises à jour seront bien évidemment à retrouver sur notre site vaticannews.va. Je vous le disais en titre, la Russie est pressée de donner une réponse à la proposition de cesser le feu formulée hier en Arabie Saoudite. Elle est le fruit d'une intense négociation à Jeddah entre les Américains et les Ukrainiens. Ce mercredi, Volodymyr Zelensky a rappelé que l'avenir de cette proposition dépendait à 100% de Moscou. Mais côté russe, on préfère pour l'heure temporiser. Les précisions de notre correspondant Jean-Didier Revoin.
Moscou donne donc l'impression de vouloir gagner du temps en continuant à chasser les troupes ukrainiennes de son territoire dans la région frontalière de Koursk. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'était toujours opposé à un cessez-le-feu temporaire. Il souhaite en effet parvenir à un arrêt complet des combats sur la base des territoires conquis par les forces russes et conclure ce qu'il appelle une paix à long terme fondée sur le respect des intérêts légitimes de tous les habitants et de tous les peuples qui vivent dans la région. Pour le président russe, une trêve offrirait un répit permettant aux troupes ukrainiennes de se regrouper et de se réarmer pour, à terme, reprendre le conflit. C'est pour cela que le porte-parole du Kremlin a précisé qu'il était trop tôt pour que Moscou se prononce sur la proposition d'une trêve de 30 jours. Pour Dmitri Peskov, les émissaires américains Marco Rubio et Mike Waltz vont informer les autorités russes du contenu précis et des détails de l'accord. Des discussions devraient avoir lieu dans les heures qui viennent. Et Dmitri Peskov n'exclut pas que Vladimir Poutine et Donald Trump puissent se parler directement et même très rapidement si la situation devait l'exiger. Ce n'est qu'ensuite qu'on saura si Donald Trump est parvenu à infléchir les positions de Vladimir Poutine. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et Donald Trump qui vient d'annoncer il y a quelques minutes que des négociateurs américains se rendaient dès maintenant en Russie. Le chef de la Maison-Blanche qui espère que son homologue russe saisira la main tendue. Une autre invitation également, celle du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui dit espérer que la Russie répondra de manière positive et de manière constructive à la proposition américaine de trêve. Recep Tayyip Erdogan qui recevait aujourd'hui à Ankara le premier ministre polonais Donald Tusk. L'avenir de l'OTAN et les questions de défense étaient au cœur de leurs entretiens. En France, les députés ont commencé ce mercredi après-midi à débattre d'une proposition de résolution destinée à renforcer le soutien à l'Ukraine. Elle contient notamment un appel à saisir les avoirs russes qui ont été gelés depuis le début de la guerre en février 2022. Une question qui divise profondément la classe politique. La Bosnie en pleine ébullition. Le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, est depuis ce matin sous le coup d'un mandat d'arrêt dans son pays. Le parquet fédéral l'accuse de saper l'ordre constitutionnel. Dodik, proche de la Russie, poursuit néanmoins sa politique séparatiste. Au grand dam des institutions de la Serbie, on fait le point avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy.
Les événements s'accélèrent en Bosnie et en Republika Srpska. Le parlement de l'entité serbe se prononce sur une constitution aux accents séparatistes. C'est le dernier signe de la fuite en avant du président de cette entité, Milorad Dodik, un proche de Poutine. En 18 ans de pouvoir, il a systématiquement tenté d'affaiblir l'État bosniaque. Dodik avait été condamné fin février à un an de prison et à 6 ans d'interdiction d'exercer pour s'être opposé au tribunal constitutionnel. Ce matin, le procureur a émis un mandat d'arrêt contre lui et deux autres politiciens séparatistes. Nombre de figures politiques bosniaques et surtout l'administration Trump, dont il espérait un soutien, ont désavoué Dodik. De plus, son allié traditionnel, le président serbe Aleksandar Vučić, fait face dans son pays à une contestation anticorruption sans précédent qui rend hypothétique tout soutien significatif. Belgrade a pourtant condamné l'émission de ses mandats d'arrêt. Reste à savoir si la police serbe de Bosnie arrêtera son leader, aujourd'hui très isolé, ou tentera de l'accompagner dans sa course sécessionniste. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
L'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. Déclaration il y a quelques minutes de l'Ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien. Une manière de répondre aux menaces américaines. Une lettre de Donald Trump est d'ailleurs arrivée ce soir à Téhéran. On ne connaît pas encore les détails, mais on sait que le président américain devrait appeler à des négociations et avertit de possibles actions militaires en cas de refus de l'Iran. Le président américain qui s'était dit prêt à un deal avec le régime des Mollahs, il a par ailleurs renforcé les sanctions visant le secteur pétrolier iranien. Une bonne nouvelle pour la planète dont peut s'enorgueillir le Royaume-Uni. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 3,6% l'an dernier, conséquence notamment de la nouvelle politique énergétique de Londres. Le Royaume-Uni qui a fermé en septembre dernier sa dernière centrale à charbon, une première pour un membre du G7. La Cour pénale internationale de La Haye confirme l'arrivée de Rodrigo Duterte aux Pays-Bas aujourd'hui. L'ancien président philippin de 2016 à 2022 avait été arrêté hier à l'aéroport de Manille. Il est accusé de crimes contre l'humanité pour des milliers d'exécutions extrajudiciaires lors de sa guerre contre la drogue. Au Soudan, la guerre civile est continue toujours de déchirer le pays depuis bientôt 2 ans. Entre l'armée régulière et les FSR, les forces de soutien rapide, selon l'ONU, cette guerre est la pire catastrophe humanitaire en cours. Une guerre qui passe néanmoins bien souvent loin des radars de l'actualité. Un constat dressé par l'ONG Médecins sans frontières, qui a dû suspendre le mois dernier ses activités du camp de Zamzam au nord du Darfour. Marco Bertotto est le directeur des programmes de MSF Italie.
Un Sudanese su due che vive una situazione di insicurezza alimentare, un Sudanese su 5 costretto ad abbandonare la propria casa. Sono dati che parlano di un fallimento della comunità internazionale nell'intervenire in una crisi umanitaria di enorme dimensione. Beh, nel campo di Zamzam abbiamo fallito perché siamo stati costretti a fuggire, nel senso che abbiamo dovuto interrompere nello scorso febbraio le attività, lasciando sole e senza assistenza umanitaria necessaria 500.000 persone che vivono in quel campo, e questo perché semplicemente non c'erano quelle condizioni di sicurezza che consentivano ai nostri operatori di proseguire delle attività che sono attività salvavita. L'appello è a restituire un po' di visibilità intanto a questa crisi, una crisi che è poco raccontata, una crisi che è dimenticata. La crisi umanitaria non è solo un effetto del conflitto, la crisi umanitaria è parte di una strategia deliberata delle parti che usano gli aiuti come strumento di guerra, ed è anche il risultato di un fallimento di chi dovrebbe fare qualcosa, di chi dovrebbe alimentare una strategia di azione umanitaria più incisiva, e non lo sta facendo.
Voilà, pardon pour les non italophones, MSF qui demande de plus de visibilité sur cette guerre au Soudan et qui explique que la crise, la catastrophe humanitaire est une faillite de la communauté internationale. Partons en République démocratique du Congo, où l'annonce a surpris ce matin. Le gouvernement pourrait en effet négocier directement avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, le fruit d'une médiation de l'Angola qui a annoncé ses prochaines tractations. Les précisions à Kinshasa de Pascal Moulégois.
Le message est tombé comme un coup près. La médiation a proposé à Kinshasa de dialoguer directement avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, une ligne rouge pour le gouvernement congolais, mais qui ne s'y est pas opposé. Après un entretien avec son homologue congolais, mardi, le médiateur angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, a fait part de sa décision à Félix Tshisekedi, qui est resté taiseux jusqu'à fin de journée. C'est finalement sa porte-parole, Tina Salama, qui a réagi. Nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Fin de citation. Les négociations directes devraient se dérouler dans la capitale angolaise Luanda. Reste à définir le nombre des participants, la date et leurs conditions. C'est important de les rappeler car jusqu'à présent, le président Félix Tshisekedi l'a déjà rappelé à plusieurs reprises. La RDC a toujours estimé que toute négociation de ce type devrait avoir lieu avec le Rwanda, que le chef de l'État congolais a encore qualifié de maître des pantins du M23 qui contrôle pourtant 2 importantes villes dans l'est du pays, à savoir Goma et Bukavu. Le tournant est décisif alors qu'un sommet de la communauté des États d'Afrique australe devrait statuer ce 12 mars sur la situation dans l'est congolais. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
Voilà. Bucarest. C'est au Congo que s'achève ce journal. Merci infiniment pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. Excellente soirée à tous.